Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François exhorte la communauté internationale à trouver une solution à la crise syrienne. Il a lancé un appel pressant à l'occasion de l'Angélus. Le pape François qui a par ailleurs expliqué le sens de la porte étroite dont parle Jésus, compte rendu dès le début de ce magazine. Nous parlerons également du débat sur la laïcité au Québec et des efforts pour consolider le dialogue interreligieux dans le monde. Et en fin d'émission, rediffusion d'un entretien avec l'abbé général des Cisterciens. La situation en Syrie inquiète le Saint-Siège. Le pape François a profité ce dimanche de la rencontre publique et fortement médiatisée de l'Angélus pour exprimer sa souffrance et sa préoccupation. Avec des accents dramatiques, il a évoqué l'escalade de la violence dans une guerre fratricide, la multiplication des massacres et des atrocités, les terribles images de ces jours derniers. Le Saint-Père élève sa voix pour que cesse le bruit des armes. Ce n'est pas, dit-il, l'affrontement qui offre des perspectives d'espérance pour résoudre les problèmes, mais la capacité de se rencontrer et de dialoguer. Du plus profond de son cœur, le pape François manifeste sa proximité dans la prière et la solidarité avec toutes les victimes de ce conflit et avec tous ceux qui souffrent, en particulier les enfants. Il invite à ne pas éteindre l'espoir de paix. Et dans un geste sans précédent, le pontife argentin a interpellé la communauté internationale pour qu'elle se montre plus sensible face à cette situation tragique et s'engage au maximum pour aider la chère nation syrienne à trouver une solution à une guerre qui sème destruction et mort.
Ad una guerra che semina distruzione e morte.
Si elle apparaît encore hésitante ou impuissante sur le plan politique, la mobilisation internationale est en revanche importante sur le plan humanitaire. C'est l'avis du père Nawaz Samour, chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au sein du JRS, le service des jésuites pour les réfugiés.
Il y a vraiment la bonne volonté de la communauté internationale et des instances internationales aussi, comme les Nations Unies, les agences des Nations Unies, les autres organisations, d'aider. Ça, il n'y a pas de doute sur la volonté. Mais il y a peut-être une difficulté qui est liée à la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont hyper chauds, là où il y a beaucoup de batailles, là où il y a beaucoup de guerres, quoi. Et là où les instances ne peuvent pas acheminer les aides. Et ils sont bloqués d'une part ou d'une autre à cause des événements, quoi. Mais la volonté y est.
Et pour en revenir à l'Angélus, le pape François a proposé aux fidèles une réflexion sur le salut à partir de l'évangile de ce dimanche. Jésus indique le chemin du salut, à savoir la porte étroite. La porte, image qui revient souvent dans les évangiles, est celle qui nous permet d'entrer dans la chaleur de la maison de Dieu. Cette porte, c'est Jésus lui-même, Olivier Tosserie.
La porte étroite n'est pas une salle de torture. Avec le style direct qu'il affectionne, le Saint-Père a expliqué un des passages les plus exigeants de l'évangile. Si la porte est étroite, c'est parce que pour la franchir, il faut ouvrir son cœur à Jésus, se reconnaître pécheur, avoir l'humilité d'accueillir sa miséricorde. Cette porte n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte à tous, sans distinction, sans exclusion, sans privilège. Parce que Jésus, a martelé le pape François, n'exclut personne et les pécheurs sont ses préférés car il les attend pour leur pardonner et les aimer. Aujourd'hui, a-t-il noté, nous passons devant tant de portes qui nous invitent à entrer et nous promettent le bonheur, un bonheur qui ne dure qu'un instant et qui n'a pas d'avenir. Le souverain pontife a invité les fidèles à ne pas avoir peur, à trouver le courage de franchir la porte de la foi en Jésus-Christ, à sortir de leur égoïsme, de leur repli, de leur indifférence à l'égard des autres. Être chrétien, ce n'est pas avoir une étiquette. Être chrétien, c'est vivre et témoigner sa foi dans la prière, les œuvres de charité, la promotion de la justice. C'est par la porte étroite du Christ que toute notre vie doit passer, et avec le goût de la formule qui le caractérise, il a ajouté que la lumière de Jésus qui éclaire nos vies n'est pas un feu d'artifice ou un flash, c'est une lumière tranquille qui dure pour toujours et nous donne la paix.
Et en cette fin d'été, alors que beaucoup se préparent à renouer avec leur quotidien, le pape François a invité l'Assemblée à envisager l'avenir avec espoir. Alors que la querelle sur le port du voile à l'université risque de rebondir en France, la question laïque provoque déjà des remous au Québec. Au Canada, chacun peut porter librement au travail son turban, sa kippa ou le voile. Mais au Québec, les indépendantistes au pouvoir veulent aller plus avant sur la laïcité. Selon le principe de la neutralité de l'État, ils voudraient interdire le port ostentatoire de signes religieux par les personnels des services publics. Une charte des valeurs québécoises sera présentée cet automne. Si la charte devait être adoptée par les députés québécois, québécois, les crucifix devront disparaître des lieux publics, ministères, sociétés d'État, corps policiers, tribunaux, et le port du voile serait interdit dans ces mêmes lieux. Pour l'Église locale, cette charte équivaudrait à nier une part importante du patrimoine national au nom d'un athéisme officiel. Monseigneur Pierre-André Fournier, évêque de Rimouski, souligne ainsi que l'athéisme officiel finit par devenir une autre religion qui ne respecte ni l'histoire ni le patrimoine. Selon lui, l'État doit protéger la liberté de religion et pas la restreindre. Sinon, comment pourrait-il défendre, par exemple, les chrétiens d'Égypte, s'interroge-t-il. La conférence des évêques fera connaître sa position officielle à la mi-septembre lors de sa prochaine Assemblée générale. Au Québec, justement, les catholiques revendiquent de plus en plus leur liberté de parole. Si beaucoup de Québécois ont pris leur distance par rapport à l'Église, on assiste à un renouveau timide parmi les jeunes qui se rapprochent du mouvement français contre le mariage pour tous. Je vous propose d'écouter à ce propos un extrait d'une interview que nous a accordé Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, lors de son passage à Rome il y a quelques semaines.
On a fait une marche récemment contre l'euthanasie, on était un tout petit nombre. Mais je crois qu'au Québec, comme en France, on commence à réaliser que même si on nous a dit pendant des décennies qu'il fallait que les religieux et les croyants restent dans leurs sacristies, leurs églises, n'allaient pas sur la place publique, nous nous rendons compte que c'est un devoir de citoyen. Nous sommes des citoyens à part entière et nous avons à prendre parole. Souvent, des journalistes au Québec vont me poser cette question. Mais quand est-ce que l'Église va se mettre à jour et arrêter de lutter contre ce que la société évoluée reconnaît comme normal? L'avortement, l'euthanasie, le mariage de personnes de même sexe, nous ne pouvons pas arrêter. Et l'Évangile ne nous permet pas d'arrêter. Beaucoup de jeunes chez nous, même s'ils sont moins nombreux qu'en France, nous viennent de mouvements autour de communautés nouvelles, de chemins néo-catéchuménales, de jeunes qui ont vécu des JMJ, qui continuent d'être engagés, des jeunes qui sont autour ou accompagnent des communautés, même traditionnelles, plus traditionnelles, qui ont plus d'histoire, mais qui sont renouvelés dans leur foi. La jeune génération n'a pas ce complexe, peut-être, des générations antérieures, et ils sont prêts, ils n'ont pas peur d'aller sur la place publique et d'être des témoins de la foi. Et on ne pourra pas les taire, heureusement. Ils ont un courage que j'admire. Ils m'incitent à aller plus loin dans mon propre témoignage. C'est prophétique de voir ces jeunes. Bien sûr, autant en France que pour les nôtres au Québec ou au Canada, quand j'ai la chance de jaser avec nos jeunes, je leur dis toujours, il ne faut jamais que nos protestations utilisent les moyens de la violence, ni de la dénigration, ni du mensonge, ni de l'imposition. Nous n'avons rien à imposer, mais nous avons quelqu'un d'extraordinaire à proposer. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alors que ce que nous faisons soit fait dans l'amour, dans le respect. Mais le respect exige aussi et nous permet d'aller très loin dans le témoignage.
L'archevêque de Québec, interrogé par Manuela Afigi. Le dialogue sera à l'honneur ce lundi dans la capitale éthiopienne. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba accueillera un nouvel atelier de travail sous les auspices du CAICID, le Centre international pour le dialogue interreligieux et culturel, fondé par l'Arabie saoudite, l'Espagne et l'Autriche, avec le Saint-Siège en tant qu'organisme observateur fondateur. Cet atelier fait partie d'un programme de 3 ans intitulé « L'image de l'autre » et dont le but est d'apprendre à donner une image objective d'autrui. L'année 2013 se focalise sur l'éducation. 2014 s'intéressera aux médias et 2015 au web. Un premier atelier pour l'Europe et le Moyen-Orient s'est tenu le 22 mai à Vienne en présence de 130 experts. C'est à présent le tour de l'Afrique. D'autres ateliers continentaux sont prévus pour l'Asie et les Amériques, tandis qu'une conférence générale devrait se tenir à Vienne les 18 et 19 novembre. Le CAICID a été inauguré en novembre 2012 avec la participation du président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Pour le cardinal Torrent, ce centre offre l'occasion d'aborder plusieurs thèmes, à commencer par la liberté religieuse sous toutes ses formes, pour tout homme, pour toute communauté et partout. De son côté, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a précisé que ce centre n'était pas une institution saoudienne, mais une organisation internationale indépendante reconnue par les Nations Unies, un espace de dialogue où le Saint-Siège espère pouvoir mettre ultérieurement à profit son expérience et son autorité dans ce domaine.
Thank you.
Dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose à présent de réécouter un entretien avec un moine cistercien réalisé au mois d'octobre dernier. Il s'agit du père Mauro Giuseppe Lepori, abbé général de l'ordre des cisterciens. Il est titulaire d'une licence en philosophie et d'une licence en théologie obtenue à l'université de Fribourg en Suisse. Il s'est fait connaître par la publication de plusieurs ouvrages, ainsi que par ses conférences adressées à des publics variés et ses talents d'aquarelliste. Interrogé par Catherine Aubin, il nous confie combien la présence de Saint-Pierre a été fondatrice pour sa vocation monastique.
Je dirais que Saint-Pierre, je crois, il est vraiment paradigmatique d'un homme qui est appelé à suivre le Christ et comme il est, avec tous ses défauts, toutes ses limites, et que le Christ accompagne vers la responsabilité, au fond, vers la paternité. Et sûrement, à chaque étape de ma vie, cette figure sur laquelle j'ai beaucoup médité, et maintenant, à chaque fois que vient une étape de ma vie, je le retrouve, parce que au fond, son amitié avec le Christ, le fait qu'il a engagé avec le Christ tout ce qu'il était, ses qualités et ses défauts, le rend toujours une aide à dire oui au Christ aussi pour nous dans chaque situation. Et je crois que le Christ l'a vraiment donné un accomplissement à cet appel quand il lui a demandé. Il a rendu essentiel cet appel en lui demandant « Est-ce que tu m'aimes ?» Jésus a lié la charge pastorale de Pierre, l'a faite comme une conséquence de la réponse à cette unique question. « Est-ce que tu m'aimes ? Oui, alors tu peux paître mes brebis. » Pour moi, surtout maintenant, ou peut-être plus la charge devient importante, moins on peut dire j'en suis capable, je peux arriver à tout suivre, à tout faire. Et donc, je me retrouve surtout dans ce Pierre qui, conscient de tout son reniement, de sa faiblesse, de sa pauvreté humaine, il écoute cette demande d'amour du Christ et il répond oui. Et puis, dans ce dialogue d'amour, que moi je l'appelle le cantique des cantiques de Pierre, il puise dans ce dialogue d'amour tout ce qu'il doit être ou faire ou dire dans sa charge pastorale.
Vous n'avez pas toujours pensé à être moine?
Moi, il faut dire, le coup de foudre était Assise, à la Portioncule, donc le jour de la fête du pardon. J'avais 18 ans. Et là, c'était l'appel vraiment à que le Christ soit tout dans ma vie. La première chose qui m'est venue à l'esprit, bon, je serai prêtre. Et je crois qu'au fond, toutes nos idées sur notre vocation que nous nous faisons, l'important c'est de commencer à entamer une démarche, de faire des pas. Et au fond, c'est toujours Dieu qui redresse le tir, disons, qui fait après détourner les choses dans le sens qu'il veut. Et c'est vrai que j'ai retrouvé en allant au Trif, pour une raison très, très banale, je me retirais pour préparer un examen en théologie. Et là, j'ai eu le coup de foudre qu'au fond, c'était celui d'Assise qui se reproduisait. Et j'ai commencé à vérifier ce chemin.
Entre être un prêtre séculier et être un moine, c'est quand même très différent.
Pendant le premier mois que j'ai fait d'essai au Trif, je me posais beaucoup cette question. Est-ce que ma vie n'est pas davantage utile si je suis prêtre, si je suis dans la pastorale? J'ai beaucoup médité sur le Jean 15, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, qui demeure à moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. » Cela m'a fait vraiment comprendre qu'il ne faut jamais se poser la question de la fécondité de notre vie d'une manière mondaine ou en nous regardant de l'extérieur. C'est là où le Christ nous appelle à être vraiment unis à lui, à demeurer en lui. C'est là que le lieu de notre fécondité. Et je crois la vocation de chaque personne, soit des laïcs dans le mariage, des prêtres, des moines, des moniales, des religieuses, a là son point. Et chacun, il faut qu'il trouve le moment, le lieu, la forme dans laquelle le Christ lui dit « Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime. » Alors, la fécondité est une conséquence.
Père Lepori, les moines, les moniales, cisterciens, cisterciennes, quelle est leur place dans le monde ? Comment vous voyez leur vocation au cœur du monde ?
Je me rends de plus en plus compte que nous sommes dans une époque où mon ordre doit vraiment revenir à Saint-Benoît, à la règle de Saint-Benoît et au charisme de Saint-Benoît, qui au fond, le charisme des cisterciens était justement de revenir à la lettre et à la simplicité de l'observance de la règle de Saint-Benoît. Je crois que Saint-Benoît est très actuel aujourd'hui parce qu'il propose un cheminement de vie monastique qui embrasse tout l'humain de la personne. Il n'y a rien de ce qui est l'homme qui est censuré dans la règle et dans le cheminement monastique que Saint Benoît nous propose. Je dis souvent que peut-être la règle de Saint Benoît est encore plus actuelle aujourd'hui qu'à son époque, parce qu'au fond, à l'époque de Saint Benoît, c'était urgent de reconstruire la société, la culture, après la chute de l'Empire romain. Et aujourd'hui, l'urgence est de reconstruire l'homme, disons l'anthropologie, de reconstruire le moi. L'homme ne sait plus qui il est. Au fond, l'époque moderne, en le mettant trop au centre de lui, de soi-même, lui a fait perdre au fond sa nature d'image de Dieu, de créature qui a un destin infini. Et Saint Benoît vraiment aide l'homme à se retrouver avant tout soi-même, au fond, dans le don de soi, dans la dilatation du cœur qui, par l'humilité, atteint la charité.
Quand Saint Benoît et vous parlez de l'humilité, qu'est-ce qu'on entend par cette humilité ?
L'humilité est vraiment la vérité de l'homme dans sa relation à tout, à Dieu tout d'abord, aux autres, à soi-même. Donc c'est l'homme qui se redécouvre dans sa vocation de relation, qui est une vocation d'amour. Saint Benoît prévoit, il y a tout un chapitre sur l'humilité dans sa règle qui prévoit 12 degrés d'humilité, qui partent au fond de, tout d'abord de reconnaître, de se rappeler que Dieu est là. L'homme redécouvre ce que Adam et Ève ont perdu ou ce dont ils se sont cachés. C'est comme un retour du fils prodigue à la maison du père pour vivre dans cette compagnie de Dieu et des hommes qui permet à l'homme d'être soi-même.
Et cette humilité est la première marche pour la charité. Elle est liée
à la
charité.
Pour Saint Benoît, c'est vraiment la substance de la charité. Pour lui, l'homme humble est comme Marie. Il est rempli de l'Esprit-Saint. Il y a une très belle phrase dans le prologue de la règle de Saint Benoît. Il dit au fond que l'homme qui craint Dieu, il magnifie Dieu qui opère en lui. C'est vraiment le Magnificat de Marie concentré, n'est-ce pas ? Il magnifie Dieu qui opère en lui. Ce n'est pas une humilité où l'homme se sent rien, se sent inutile, se sent un ver. C'est l'humilité vraiment qui... plein d'étonnement. Il magnifie Dieu, il glorifie Dieu parce qu'il se rend compte que Dieu opère en lui, que l'Esprit Saint en lui, que le Christ, que le Père l'aime. Que cet étonnement de l'homme face à un Dieu qui opère dans notre cœur, dans notre vie, et cette opération de Dieu dans notre cœur, c'est la charité, au fond, c'est la capacité d'aimer comme lui.
Alors vous avez cité aussi la présence de Marie, qui est porteuse de l'Esprit-Saint, qui est remplie de l'Esprit-Saint. Et j'en profite pour vous demander la place de la femme au sein de l'ordre cistercien. Il me semble que vous vivez maintenant des chapitres généraux où les abbés et les abbesses sont ensemble. Vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Au fond, j'ai eu la chance, comme j'étais abbé dès 1994, de vivre des chapitres généraux avant l'entrée des femmes et après. Donc les femmes sont entrées en l'an 2000 dans notre ordre, elles sont devenues membres en plein titre du chapitre général. Et j'ai vraiment vu le changement. Disons, l'apport féminin, comment dire, d'un côté est beaucoup plus attaché au réel et donc moins à la politique, si on veut dire. J'ai remarqué avant, on risquait entre hommes de faire beaucoup de politique, au fond, de affronter les problèmes en termes d'équilibre de pouvoir. Les femmes, je crois, elles ont introduit une manière d'affronter les problèmes où on va droit au problème, à la réalité des choses et surtout des personnes. Donc la femme, au fond, elle a ce charisme naturel d'avoir soin de l'autre, de cette maternité. Et ça a apporté vraiment un changement énorme au chapitre général et donc dans l'ordre entier. C'était déjà avant parce que l'ordre était déjà composé par monastères masculins et féminins. Mais le fait que les femmes ont vraiment la voix active et non plus seulement passive au sein du chapitre général et de l'élaboration aussi dans les autres organismes de gouvernement de l'ordre et de conseil est vraiment un pas très, très important.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. Et je terminerai par ce tweet du pape François. N'aie pas peur de demander pardon à Dieu. Il ne se fatigue jamais de nous pardonner. Dieu est pur, miséricorde. C'est la fin de cette émission, mais n'oubliez pas de nous rejoindre sur internet radiovaticana.va et sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de votre fidélité.